Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
C'est sans doute l'un des retours musicaux les plus attendus de l'année. Christine and the Queens publie le premier extrait de leur nouvel album. Prévu à la rentrée prochaine, la chanteuse qui a conquis le monde il y a 4 ans avec son premier disque Chaleur Humaine a accordé l'un de ses très rares entretiens à Steven Bellery, appelé la Chris. Vanessa Paradis est à l'affiche du dernier film en compétition au Festival de Cannes. Un couteau dans le cœur, elle s'est confiée à Stéphane Boutsock, hors compétition. Projection d'un documentaire consacré à Whitney Houston. Anthony Martin a rencontré son réalisateur Kevin MacDonald. Enfin, Stéphane Bern publie le 4e volume de ses Pourquoi de l'Histoire, un phénomène de librairie qui fait écho au succès de ses émissions sur France 2. Et Bernard Lehu a feuilleté ses Pourquoi de l'Histoire avec Stéphane. Nous vous offrirons des exemplaires.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
La musique pour commencer, c'est l'un des projets les plus attendus de l'année. Le grand retour de Christine and the Queens. 4 ans après l'immense succès de son premier album Chaleur Humaine, récompensé par 4 victoires de la musique, écoulé à 1 300 000 exemplaires dans le monde, la chanteuse vient de dévoiler le premier single de son 2e album. Steven, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Christine and the Queens.
Toujours aussi simple, drôle, pétillante et brillante. Son 2e disque sortira à la rentrée et fait déjà frémir ses fans, y compris à l'étranger, où la chanteuse qui fêtera ses 30 ans le 1er juin est désormais connue. Avec ce morceau publié hier soir, Christine and the Queens se réinvente. Elle barre la fin de son pseudonyme pour ne garder que Chris. Avant d'évoquer sa mutation, place à la musique. Christine présente pour RTL son épatante, funky et tubesque nouvelle chanson intitulée « Dame, dis-moi ».
Je trouve que ça pose les bases du personnage de Chris. Le son est clairement inspiré par le G-Funk. Ça a été une des grosses inspirations pour le son du 2e album, qui est plus de testostérone, plus de sueur, plus de rythme, mais qu'on reste dans le minimalisme. Donc je suis allée chercher un acteur historique du G-Funk pour qu'il soit avec moi sur ce titre, qui s'appelle Dame Funk. Et c'est un titre qui parle du désir frustré. Je vais aussi chercher l'ego trip un peu dans le rap, une façon de parler de soi avec des termes un peu outrés, mais je tords ça pour le rentrer dans mon univers. Mais le refrain est assez explicite quand même, c'est-à-dire que faire de l'énergie que je perds quand je te veux. On est quand même dans la problématique d'une héroïne qui veut en découdre aussi, et qui veut toucher, et qui veut vivre une histoire d'amour, et on lui refuse cette histoire, et du coup, au lieu de juste s'énerver, elle décide de devenir l'amuseur public.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? T'aimes, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je
touché. Dame, dis-moi, c'est la toute nouvelle chanson de Christine and the Queens.
Alors, je résume, Christine and the Queens, qu'il faut donc appeler désormais Chris, tout simplement, c'est bien ça?
Oui, Chris, tout court.
Le tout court est pas mal aussi, le Chris tout court, c'est vrai que c'est assez ça, parce que c'est raccourci, c'est littéralement Christine and the Queens barré. Oui, je pense qu'il va falloir s'habituer à m'appeler Chris, parce que ce cycle qui s'ouvre avec ce premier titre et qui va être celui du 2e album, il est aussi celui de l'évolution du personnage. Et que Chris, c'est un surnom avec encore moins de genre, avec encore moins de manière aussi. Et c'est une façon très rapide d'appeler une petite canaille aussi. Donc oui, Chris, c'est pas mal.
Tout court comme vos cheveux, d'ailleurs.
Ouais.
Christine a muté, elle a changé, elle a grandi. Les trois à la fois, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est un peu les trois à la fois. Grandi certainement, parce que c'est quand même un album aussi de femmes désirantes plus que de jeunes adolescentes, ça c'est clair. Muté parce que, bah oui, physiquement, sûrement, j'ai dû avoir plus de muscles aussi et moins de cheveux. Oui, donc c'est une transformation, mais en même temps, c'est, comme je dis, c'est continuer un geste en le rendant un petit peu plus agressif. C'est quand même les mêmes problèmes qui sont toujours les miennes, mais c'est plus les mêmes armes pour en parler. Du coup, ça donne beaucoup de force aussi pour rester audacieux, je crois.
Christine and the Queens ne tue pas son personnage, c'est plus une évolution influencée par le succès de son premier opus et de la tournée géante qui avait suivi.
Avec tout ce qui s'est passé sur le premier. Et en étant sur scène, je suis devenue une femme athlète, je suis devenue une femme patronne, je suis devenue une femme puissante aussi, un peu quand même. Et qu'il y a eu des problématiques qui sont tout de suite revenues dans mon visage, qui m'ont tout de suite intéressée. Je me suis dit, c'est drôle parce que le premier album, je cherchais à tordre l'idée d'une jeune fille, que j'avais pas l'impression d'être. Et le deuxième album, il va falloir que je devienne une femme puissante, ce qui est une autre façon de tordre l'idée d'une femme aussi.
Est-ce que Chris, elle est différente de Christine and the Queens et en quoi ?
Elle est plus offerte. C'est marrant parce qu'en fait, je crois qu'il y a aussi la notion de quand le prénom diminue, ça devient un surnom. La veste, elle tombe. Moi, je suis plus en costume, mais je suis quand même plus offerte dans mon corps. Je suis plus en t-shirt, tissu léger. J'ai besoin d'aller encore plus vite.
Vous dites souvent que vous êtes devenue quand vous avez inventé Christine. Ouais. Est-ce qu'avec Chris, vous allez être ?
Oh, c'est pas mal. Ouais, je crois que de toute façon, j'ai commencé une exploration de l'identité qui ne finira peut-être jamais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une jeune femme queer en France ? Enfin, je me vis un peu comme un miroir brisé aussi. J'ai l'impression que j'ai pas trop de cohérence, mais j'en fais un jeu.
Alors, est-ce que Chris, alias Christine and the Queens, vous a donné quelques indices sur son prochain disque, Steven ?
La première info, c'est qu'elle va sortir non pas un, mais deux disques. Un en anglais, l'autre en français, les mêmes chansons dans les deux langues. Objectif, percer encore plus au-delà de nos frontières, super idée. Elle a tout écrit et enregistré entre Paris et Los Angeles, en compagnie de vieux musiciens de studio à l'ancienne, m'a-t-elle confié. Christine and the Queens a produit elle-même les titres avec quelques références en tête, notamment Michael Jackson, période Dangerous. La couleur, J-Funk, mais pas seulement, les thèmes, le genre et l'identité encore, mais pas seulement.
Mes disques sont une résonance immédiate de quelque chose de très intime, donc oui, le genre continue d'être une question. Ça parle de ça, ça parle aussi beaucoup de désir. Autant chez La Remède, c'était un peu un album de chambre d'adolescent, autant celui-là, c'est quand même un album du dehors, quoi. Parce que j'ai vécu des choses, je regarde pas que moi aussi, je regarde un peu autour de moi. Il y a une chanson en particulier qui est une chanson qui regarde aussi le monde. L'écriture de la chanson, elle s'accompagne d'une grande mise en scène visuelle de tout ça. Et le petit personnage de Chris en canaille, il a tout un univers qui l'accompagne. Et il y a des inspirations phare, il y a Peter Pan et les enfants perdus. On travaille aussi encore la figure de l'outsider, parce que je me sentirais peut-être jamais in, je me sentirais plutôt out tout le temps, mais on la travaille un peu différemment.
T'es qui pour me traiter toi?
Christine and the Queens est de retour et ça fait du bien. Album à la rentrée, tournée française à partir du 4 décembre à Paris-Bercy le 18 décembre avec une nouvelle équipe de danseurs et de danseuses avec laquelle elle est en train d'écrire le spectacle. Des nouveaux musiciens également sur scène. Interview intégrale, 15 minutes, elle dit tout. C'est en écoute sur RTL.fr.
Chris, I don't know why you're tripping.
Dans cette chanson, et puis alors elle vous dit des choses, hein, elle est intéressante.
Elle est passionnante.
Rencontre
ça fait bouger.
Et la version anglaise s'appelle Girlfriend, pour aller la découvrir.
Merci.
Il est fou, il va nous mettre jusqu'à la fin de l'émission. Il n'a pas tort parce que c'est vraiment agréable. Rencontre signée Steven Bellerick. Dans quelques instants, nous partons au Festival de Cannes pour retrouver nos envoyés spéciaux Anthony Martin et Stéphane Boutsock. À tout de suite.
RTL, laissez-vous tenter, 9h08.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Festival de Cannes 2018.
Direction Cannes, à la veille du palmarès du 71e Festival International du Film. Anthony Martin, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut.
Cette dernière journée de compétition officielle est marquée, Stéphane, par l'entrée en lice de Vanessa Paradis. Elle porte le film Un couteau dans le cœur du français Yann Gonzalez.
Alors, film étrange. On est à mi-chemin entre le thriller horrifique, le grand guignol et la romance. On est entre Eric Rohmer, Claude Sauté et John Carpenter. Où il y a un petit peu le spectre qui est assez large. L'histoire, c'est celle de Anne, jouée par Vanessa Paradis, productrice de films porno gays. On est à la fin des années 70. Et la voici confrontée à un mystérieux tueur masqué qui décime ses acteurs au moment où elle-même est quittée par la femme qu'elle aime. Objet étrange, qui a un petit peu secoué la salle tard hier soir, je peux vous le confirmer. Le Grand Théâtre Lumière de Cannes, où Vanessa Paradis était de retour, mais de l'autre côté de la barrière, puisqu'il y a 2 ans, elle faisait partie ici du jury. Je lui ai donc demandé comment elle avait vécu cette soirée un peu particulière.
Avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie. On était presque toute l'équipe du film au complet à Cannes ce soir, voir le film ensemble. On s'est retrouvés avant, on s'est tous sauté dans les bras. C'est un moment extrêmement joyeux. Et puis oui, évidemment d'avoir vécu le festival du jury de l'autre côté, voilà, de présenter un film. Ça, je sais pas si je suis plus émue que mes camarades, mais oui, ça fait quelque chose de fort. C'est un rêve, Cannes, et puis quand on a la chance d'y être, c'est fabuleux.
Alors c'est en tout cas un rôle très fort pour Vanessa Paradis, dont la filmographie, si on se souvient, de Noce Blanche à La Fille sur le Pont ou En passant par Elisa, n'a jamais vraiment cherché la facilité ou le succès à tout prix. La voici donc héroïne tragique et passionnée devant la caméra de Yann Gonzalez, avec une gamme complexe de sentiments à jouer.
Oui, c'est une femme amoureuse, déterminée, violente, alcoolique, désespérée parfois. C'est une guerrière aussi. C'est même parfois un bulldozer. C'est son cœur qui la dirige. Jouer au cinéma, de toute façon, ça demande du laisser aller. Jouer, c'est s'oublier un peu, ne pas trop porter de jugement sur soi. C'est plus facile avec les années qu'au début, hein, quand on est jeune. Mais, enfin, pour moi, en tout cas, déjà d'accepter un projet, voilà, on y va avec une certaine confiance. Et puis, votre metteur en scène vous donne confiance. Et Yann, c'est quelqu'un de très précis et de si bienveillant. Il m'a donné des ailes pour jouer ce personnage.
Vanessa Paradis, donc, à l'affiche du film Un couteau dans le cœur. On l'a vu tard hier soir. Le film sort dans les salles le 27 juin. Ça va vite venir.
Merci Stéphane pour cette rencontre avec Vanessa Paradis. On va écouter une voix à présent. La voix magique de Whitney Houston. Anthony Martin, je me tourne vers vous, car oui, en marge de la compétition, le festival a présenté en avant-première un documentaire émouvant sur la chanteuse américaine.
Oui, un film de 2 heures qui revient sur le parcours tragique de cette diva retrouvée morte il y a 6 ans à l'âge de 48 ans dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Los Angeles. Alors ce documentaire, et c'est mon seul bémol, est plus people qu'artistique, mais il a le mérite de porter un regard nouveau sur le destin de la chanteuse et actrice. Enfant prodige dans la chorale de sa paroisse, sa grâce, sa voix exceptionnelle et sa fraîcheur l'ont propulsée au rang de star mondiale. Puis, l'addiction à la drogue et la descente aux enfers jusqu'à l'abandon de sa fille et la mort. C'est un portrait intime qui gratte le vernis et va chercher les démons de Whitney Houston dans les secrets de famille. On entend les témoignages parfois glaçants de sa mère, de ses frères, de ses collaborateurs, de son mari Bobby Brown. Le film montre d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les tabloïds, il n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Le réalisateur Kevin MacDonald nous confie qu'il a dû batailler pour libérer la parole du clan Houston.
Tout le monde savait que sa vie était sombre. Tout a été étalé dans la presse people et on voit dans le film à quel point on s'est moqué d'elle à la fin quand elle passait à la télé, ce qui est assez énervant. Je ne savais pas que la réalité était si noire. Je n'ai jamais interviewé autant de personnes pour un film et beaucoup d'interviews n'ont rien donné à part des banalités parce que ces personnes se sentaient coupables et ne voulaient pas dire la vérité. J'ai dû retourner à la charge, voir certains proches plusieurs fois. J'ai fait parler les frères 4 fois chacun. Le moment le plus émouvant pour moi, c'est quand l'attaché de presse de Whitney m'a dit « Je me sens si coupable, j'ai menti à la presse pendant des années. Je me dis aujourd'hui que je n'aurais pas dû. Je pensais bien faire et je n'ai fait qu'empirer la situation. »
Le mal était donc bien plus profond que l'addiction à la drogue, hein, chez Whitney Houston.
Oui, le documentaire le montre et nous donne des clés pour comprendre cette autodestruction en public. La star a dû composer toute sa vie, tant bien que mal, avec le divorce de ses parents, les fâcheries définitives avec son père, sa bisexualité et cette révélation faite par son frère, sa belle-sœur et son assistante dans le documentaire. Whitney Houston, enfant, a été agressée sexuellement par sa cousine. On constate dans le film que la star n'est finalement jamais parvenue à faire la paix avec ce lourd passé. Un cœur brisé et une voix brisée. Kevin MacDonald.
Je voulais montrer aux gens qu'il y avait une forme de génie chez cette femme. Elle était une interprète géniale. Il y avait tant d'émotions dans sa voix, ça allait droit au cœur, comme une injection d'adrénaline. Écoutez sa chanson et vous n'y échapperez pas. Vous serez ému, c'est inévitable. Vous savez, quand elle a commencé à se droguer, elle ne pouvait plus s'exprimer en chantant. Elle ne pouvait plus livrer ce qu'elle avait au fond d'elle. C'était fini. Il n'y avait plus d'échappatoire. Ça a été une spirale terrible pour elle. And that's when things really went so terribly for her. Don't make me close one more door. I don't
Voilà, Whitney, le documentaire de Kevin MacDonald. Il faudra attendre un peu, mais il sortira en salle en France le 29 août.
Aujourd'hui, dernière journée de compétition. Stéphane, quels sont pour vous les temps forts de ce festival 2018? Quel film pourrait se retrouver au palmarès demain soir? On ne peut pas s'empêcher de vous poser la question.
Alors, en sachant, attention, qu'il reste encore sur le papier un moment fort. L'ultime film présenté ce soir, Le Poirier Blanc du Turc Nuri Bilge, scellant Palme d'Or ici en 2013 avec Winter Sleep. Mais pour l'instant, je retiens trois films qui m'ont vraiment bluffé, touché. Une affaire de famille du japonais Kore-eda, l'histoire d'une famille recomposée vivant de petits larcins. Dogman de l'italien Matteo Garrone, la rêve révolte violente d'un toiletteur pour chien que tout le monde méprise et utilise jusqu'au jour de trop. Ben oui, très très bien, film formidable. Et puis Capharnaüm de la Libanaise Nadine Labaki, ça je l'ai vu hier soir avant le film de Vanessa Paradis, l'odyssée d'un gamin des bas-fonds de Beyrouth contre l'injustice du monde qui l'entoure, notamment ses parents. Croyez-moi, il y a là tous les ingrédients pour un prix majeur au palmarès. Et puis j'aime beaucoup depuis la semaine dernière, Cold War, magnifique film polonais qui suit pendant 30 ans l'histoire d'amour compliquée entre une chanteuse et un musicien.
Côté français, nous avons nos chances.
Bon, alors on va suivre l'impact sur le jury de l'impressionnant En guerre avec Vincent Lindon en leader syndical. Je crois peu aux chances du très romantique Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré.
Vincent Lacoste ?
Oui, même pour Vincent Lacoste. Je ne suis pas sûr qu'il soit au palmarès. On verra. Hein. Reste une inconnue. Les filles du soleil d'Eva Husson. Alors, c'est sans doute le plus mauvais film de cette édition, mais le thème autour de combattantes kurdes affrontant Daesh peut avoir intéressé le jury de Cate Blanchett. C'est un film de femmes sur des femmes en cette année de l'après-Weinstein. On verra.
On suivra le dénouement de ce 71e Festival de Cannes demain à partir de 19h15. Rendez-vous lundi, bien entendu, pour le bilan. Et puis une rencontre avec Terry Gilliam, dont le film L'homme qui tua Don Quichotte sera projeté demain en clôture et sortira au même moment partout en France avec RTL.
Bon week-end à vous.
On a été complet. Merci beaucoup de votre travail.
RTL, laissez-vous tenter 9h19.
Dans un petit instant, les pourquoi de l'histoire. Vous avez envie de savoir pourquoi on dit « Allez, en voiture Simone ». Eh bien, c'est un des chapitres qui m'ont beaucoup fait rire dans le dernier livre de Stéphane Bern, dont nous allons parler avec Bernard Lehu.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Cher Bernard Lehu, Stéphane Bern publie le quatrième volume de ses Pourquoi de l'histoire chez Albin Michel, que j'adore. C'est une collection qui connaît un très franc succès en librairie, comme d'ailleurs ses émissions sur France 2.
Oui, et le principe en est simple et efficace. Une question plutôt insolite et une réponse en 2 à 3 pages. Alors avant de feuilleter avec Stéphane son nouveau livre, je lui ai demandé pourquoi sa passion si communicative de l'histoire.
Tout petit, j'étais chez mes grands-parents. D'abord, mon père est un féru d'histoire, mais mes grands-parents luxembourgeois m'initiaient à l'histoire. Et donc, je posais toujours des questions. Vous savez, j'avais un livre qui s'appelait « Dis pourquoi ?» sur la nature. Mais je posais toujours des questions historiques à mes grands-parents. Et j'ai toujours eu cette curiosité historique. Alors j'ai trouvé les réponses moi-même d'abord dans les livres, dans les dictionnaires. Et maintenant, c'est devenu une déformation professionnelle puisque depuis une dizaine d'années, on me laisse faire de l'histoire à la télévision, sur le service public, et j'adore ça. J'adore parler d'histoire. Avant, c'était mon violon dingue, c'était ma passion secrète. Maintenant, elle est un peu plus connue du grand public.
Alors, feuilletons le volume 4 des Pourquoi de l'Histoire. Oui. Page 117. Pourquoi les chevaliers de la Deuxième Croisade ont-ils combattu pour des prunes ?
La Deuxième Croisade, vous savez qu'on a tous les chevaliers se réunissaient puis partaient faire la croisade en Terre Sainte pour protéger le tombeau du Christ. Et puis, cette fois-là, rien ne marche comme prévu. On ne rapporte rien.
C'est un fiasco.
C'est un fiasco dire, total. Oui. Sauf qu'on rapporte de Damas des prunes, des pruniers.
Qu'on ne connaissait pas à l'époque.
C'était un fruit qu'on ignorait. Et donc, travailler pour des prunes, c'est travailler pour rien, sauf pour des prunes. Mais là, en l'occurrence, les prunes de Damas nous permettent d'avoir de belles prunes bien mûres en France.
J'adore parce qu'il se fait rire lui-même avec cette anecdote.
Et voilà, surtout vous connaissez désormais l'origine de l'expression « travailler ou compter pour des prunes ».
Alors dites-moi, page 209, je découvre que Romorantin a failli devenir capitale du Royaume de France. Mais alors on se demande vraiment pourquoi.
Ouais, moi aussi, je l'ai découvert grâce à Stéphane Bern. Sa réponse.
Mais oui, imaginez-vous, François Ier, l'un de nos plus grands rois, il a gagné Marignan 1515, tout le monde s'en souvient, et puis il revient des conquêtes italiennes avec tous les artistes de la Renaissance, et notamment Léonard de Vinci. et il rêve de construire une capitale à Romorantin, d'édifier le plus grand palais qui soit pour sa mère, la puissante et intrigante Louise de Savoie. Et en réalité, il ne pourra jamais aller au bout de son projet, par chance, parce qu'il voulait en faire la capitale du royaume de France. Et voilà, ce rêve d'une capitale à Romorantin a toujours habité. Et c'est drôle parce que c'est resté dans l'imaginaire collectif. Dans nos métiers, on dit « mais il faut plaire à tout le monde, pensez à l'auditrice de Romorantin ». Je me disais toujours « mais pourquoi on parle toujours de Romorantin ?» Eh bien parce que ça aurait dû être la capitale de la France.
Et voilà, Romorantin, vous imaginez.
J'en parlerai avec Jacques Esnou.
Autre histoire passionnante, le chauvinisme, notre penchant à soutenir aveuglément nos couleurs, vient d'un certain Monsieur Chauvin.
On l'oublie, mais la poubelle vient du préfet Poubelle. Il y a Mécène, c'est un monsieur Mécène qui finançait à tour de bras. Et donc là, on a un Nicolas Chauvin. Alors Nicolas Chauvin qui se bat pour l'empereur, il est blessé 17 fois, il remonte au combat, etc. Sauf que on s'est rendu compte que ce Nicolas Chauvin n'avait jamais existé. C'est un personnage de pure fiction, mais qui a été utilisé comme cela, comme une sorte d'archétype d'un homme qui défend son pays, très patriote. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est d'entrer dans le langage courant. Un chauvin est quelqu'un qui aime son pays et qu'il défend coûte que coûte.
Super idée. Hein.
Monsieur Chauvin et bien d'autres anecdotes à découvrir dans le quatrième volume des Pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern chez Albin Michel.
Et en page 25, en voiture Simone, hein, c'est à vous de le découvrir. Alors, Stéphane qui par ailleurs sera évidemment aux premières loges demain pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle.
Et oui, et il sera l'invité. Invité, notez-le, de RTL Matin avec Bernard Poirette à 8h50.
Mais vous savez que ce mariage va rapporter à l'Angleterre eh bien de quoi éponger la dette que pourrait faire naître le Brexit.
Le Brexit.
Puisqu'on annonce un gain de 600 millions d'euros pour l'économie britannique autour du mariage, entre les visites touristiques, les séjours, les souvenirs, les mugs et autres
goodies.
Et autres, oui, goodies. Donc c'est vous dire que c'est une bonne affaire pour le royaume.
J'ai lu que les organisateurs avaient prévu une coupe de champagne par invité toutes les 30 minutes. C'est bien pour l'économie française aussi.
Absolument. Une bonne affaire, c'est aussi celle que nous vous proposons maintenant en gagnant le tome 4 des Pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern. Si vous répondez à la question de Bernard.
Alors, de quelle ville François 1er voulait-il faire sa capitale ?
Il y a de quoi être surpris, on vous l'a dit il y a à peine quelques secondes. Réponse au 32-10. Allez, à tout de suite.
RTL, laissez-vous tenter, 9h27.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
J'aime bien parler sur un ton un peu docte pour poser cette question qui vous permet de gagner le dernier livre de Stéphane Bern. De quelle ville François 1er voulait-il faire sa capitale, cher Bernard Meunier ?
Eh bien, Maître Calvi, il s'agissait de Romorantin.
Vous avez donc gagné le quatrième tome des Pourquoi de l'histoire publié chez Albin Michel par Stéphane Bern. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à cette émission et on va retrouver tout de suite notre camarade Julien Courbet.
Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir le nom de l'imitateur de Stéphane Bern ? Car là, j'ai beaucoup déjà de demandes, de galas et de grandes tournées.
Nous ne sommes pas lancés dans des imitations. Ah, si. Nous avons évoqué sur un ton docte son dernier ouvrage.
Déjà, il vous a
le ton du 16e siècle.
Ne m'embarquez pas dans ce chemin.
Déjà, il vous a appelé maître. Depuis quand êtes-vous maître ?
Oui, j'ai un certain magistère que j'exerce. D'accord. Avec mon équipe. Bon. Et je vous interdis de le remettre en cause.
Alors, Maître Calvi, je vous souhaite un bon week-end.
Occupez-vous de vos auditeurs.
Ils en ont grand besoin. J'ai cru que vous alliez dire de vos fesses. Ce Yves-là n'est plus le même.
Non, c'est plus le même.
Merci beaucoup.
Bonne émission, on vous écoute.
Vous écoutez RTL.